J'aimerais proposer quatre sujets, il y en aura sans doute d'autres, de joie, qui sont indépendants des circonstances et qui peut-être peuvent nous aider à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Le premier, c'est notre salut. Je suis sauvé pour l'éternité. Il y avait, qui pesait au-dessus de ma tête, suspendu la colère de Dieu. Et c'était pire que l'épée de Damoclès parce qu'on savait qu'un jour le fil serait coupé. Eh bien, je suis sauvé. Je suis sauvé pour l'éternité. Je suis délivré de la colère de Dieu. J'ai plus de problème avec mes péchés. Et même si il m'arrive de pécher, j'ai une ressource pour cela. Je suis sauvé. C'est formidable. Je peux me réjouir de cela tous les jours. Tous les jours de ce salut que Dieu m'a accordé par l'œuvre de son Fils à la croix. Donc ça, si un jour on est triste, on peut penser à cette première source de joie, le fait... La béatitude, comme dit Paul en Romains au chapitre 4, la béatitude de celui qui a cru, de l'homme à qui Dieu compte la justice sans les œuvres. Cette béatitude, ce bonheur, cette joie de cet homme-là, ce bienheureux de celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Donc ça, c'est une source de joie et on peut, en se reprêchant l'évangile tous les jours, avoir de la joie. Donc ça, c'est peut-être plutôt par rapport au passé. Par rapport au présent, j'en citerai deux. La première, c'est les moyens de grâce que Dieu nous donne pour vivre en communion. Philippe, tu as insisté sur cet aspect de communion avec Dieu qu'on trouve par exemple dans le psaume 4. Tu as mis de la joie dans mon cœur plus que au jour où le mou et le froment ont été agréables. Cette communion avec Dieu, elle s'établit par les moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Et on peut en citer quatre, qui sont la lecture de la parole de Dieu. Tes paroles se sont-elles trouvées, elles ont été la joie et l'allégresse de mon cœur. Autrement dit, très concrètement, est-ce que quand on ouvre la Bible, on se dit « chic, j'ai la possibilité de lire la Bible, je l'ai à ma disposition entière, avec plusieurs versions, même plusieurs formats, ce qu'on veut, j'ai cette possibilité, Dieu va me parler, c'est fantastique. » Par la prière, deuxième moyen de grâce, je peux parler à Dieu, toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Psaume 65, la ligne n'est jamais coupée de ce côté-là. Troisième moyen de grâce, les cantiques aussi, qui sont à la fois souvent un moyen intermédiaire entre la lecture de la parole et puis la prière, puisque c'est un petit peu entre les deux, mais qui sont un moyen d'exprimer notre joie. Et certes, Jacques dit que si quelqu'un est joyeux, qui chante des cantiques, mais il y a aussi ce texte dans Job qui dit que Dieu donne des chants de joie dans la nuit. Et je dois vous dire que ça m'est arrivé parfois d'être triste, eh bien, de chanter ou d'écouter des cantiques, ça a souvent été un moyen magnifique pour retrouver cette part de joie dans le Seigneur. Et puis, la quatrième moyen, c'est les frères et sœurs, une occasion comme celle-ci. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit à la maison du Seigneur. Alors c'est sûr que les histoires d'église, ça rend pas toujours joyeux, mais est-ce qu'on peut pas passer un petit peu au-dessus de ça pour voir quand même la joie que l'on a de monter avec d'autres à la maison de l'Éternel, de rencontrer d'autres frères et sœurs. Donc ça, c'est les moyens de grâce qui peuvent nous procurer la joie. Toujours dans le présent, il y a un verset qui me touche énormément, c'est dans la troisième épître de Jean, une expression très très forte. 3 Jean verset 4, c'est Jean qui s'adresse à Gaius et qui lui dit « On a rendu témoignage à ta vérité, comment toi tu marches dans la vérité ?»« Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci, c'est que j'entends de dire que mes enfants marchent dans la vérité. »« Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci, que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça aussi c'est une source de joie. Déjà la source de joie de savoir qu'aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, il y a des convertis. On reçoit portes ouvertes, on entend parler. J'ai été touché dans un dernier numéro, il y avait ces femmes en Inde dont les maris ont été massacrés par les hindouistes. Et ceux qui les ont visités ont fait un séminaire et ont été touchés par la joie de ces femmes dans l'épreuve. Eh bien ça me réjouit aussi, parce que ces femmes, elles marchent dans la vérité. J'entends dire qu'il y a des conversions à tel endroit, ça me réjouit aussi. Alors, on peut avoir cet aspect ronchon du vieux Jacob, dire « oui, mais est-ce que c'est vraiment le plein évangile ? Est-ce que... » Non, 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 on se réjouit, on se réjouit. Et puis le Seigneur, il a commencé une bonne œuvre en eux, il la continuera avec ses moyens. Et on est joyeux de ça. Et puis on est joyeux aussi quand on voit la croissance ici, de jeunes, d'enfants. Je vais vous partager un truc un peu personnel. En général, À la fin de chaque année, on se réunit tous les quatre en famille et puis on fait un peu le bilan de l'année. On dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et l'année dernière, on a déménagé. Nous, bon, on était contents dans notre nouvelle maison, c'est bien. Mais moi, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup plus fait de joie. C'est le baptême de Lucie, ma fille aînée. J'ai pas de plus grande joie que celle-ci, que vos enfants marchent dans la vérité. Alors, je pense que beaucoup ici ont dû éprouver cette joie aussi d'avoir de leurs enfants qui s'engagent. J'ai pas de plus grande joie que celle-ci. Et on peut repenser à cela. On peut repenser à ces choses-là. Et ça peut nous donner une joie qui est indépendante des circonstances. Et puis, un quatrième aspect, c'est ce que Pierre évoque dans sa première épître au chapitre 4, au verset 13. Il parle des souffrances. Mais de nouveau, il donne cet ordre, réjouissez-vous afin que aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Une quatrième source de joie permanente, c'est que il y a la joie devant, il y a la joie éternelle qui sera sur nos têtes. Il y a cette espérance, la joie qui est devant nous. Le Seigneur l'avait, mais nous aussi on l'a. On a l'attente du retour du Seigneur. Et ça, c'est une source de joie. On disait tout à l'heure que, c'était Jacques, c'était toi qui disais que quand on attend quelque chose, on se réjouit à l'avance. Mais c'est un petit peu ce que dit Pierre là. Il dit, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, bien sûr vous serez super joyeux, ce sera la joie complète. Mais comme vous savez que c'est certain, que ces choses-là sont certaines et véritables et qu'elles vont effectivement arriver, vous pouvez d'ores et déjà vous réjouir un petit peu en attendant. Donc vous voyez ces quatre aspects, notre salut, les différents moyens de relation que nous avons pour entretenir notre communion avec Dieu, la grande joie de voir des enfants marcher dans la vérité, et puis le retour du Seigneur qui est certain. Tout ça, c'est, je pense que ça transcende les circonstances et ça peut nous aider même quand on est triste à trouver une mesure de joie.
C'était nécessaire, j'appuierai sur le numéro 1. La joie du salut, la joie en Dieu. Parce que ça, c'est une joie de base, c'est sûr. Dans l'Ancien Testament, on a une grande illustration de notre salut dans la délivrance de l'Égypte. Nous connaissons bien cette histoire, nous y revenons souvent. On a un peuple d'esclaves qui crie à Dieu en Égypte, au chapitre 3 de l'Exode. Non, plutôt, il crie. En Exode 3, il crie. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Et au chapitre, il faut attendre le chapitre 14 pour qu'il soit dit qu'il crie à l'Éternel. Et entre les deux, Dieu s'est révélé à ce peuple par l'intermédiaire du médiateur Moïse, qui est une figure du Seigneur Jésus par lequel nous connaissons Dieu. Parce qu'il y a un préalable pour se réjouir en Dieu, c'est de le connaître. Si vous arrêtez une personne dans les rues de La Rochelle ou dans votre propre ville, vous lui dites: est-ce que vous vous réjouissez en Dieu? Non, de toute façon, Dieu n'existe pas. Mais évidemment, si Dieu n'existe pas, on ne peut pas se réjouir en lui. Vous allez à une autre personne, vous lui dites, est-ce que vous vous réjouissez en Dieu? Non, Dieu existe, je crois que Dieu existe, mais j'en ai plutôt peur. Ah, évidemment, si on a peur de Dieu, on ne peut pas se réjouir. Le préalable à notre joie en Dieu, c'est que nous le connaissions. Et là, Israël est devant la mer, il crie dans sa détresse. La mer infranchissable, les armées du Pharaon sont derrière qui arrivent de chaque côté, des montagnes, Pi-Hahiroth et Baal-Séphon. Ils sont perdus. Nous aussi, on était perdus. Et voilà que Dieu prend en main leur cause et fend la mer. Et ils traversent. Ils arrivent sur l'autre rive, sains et saufs. Ils sont sauvés. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils chantent. Ils chantent leur joie en Dieu. C'est confirmé par le psaume 66 qui dit « Nous traversèrent la mer, ils traversèrent la mer à sec, et là, nous nous réjouîmes en lui. » Ils chantent « Jah est ma force et mon cantique, elle a été mon salut. » Et le dimanche matin, nous réalisons cela, cette joie du salut. Quelles que soient nos circonstances, que de fois nous avons chanté avec les larmes qui coulaient sur notre visage à cause des circonstances difficiles. Il y a peu de temps, dans une assemblée que je connais bien, il y a une sœur qui a été retirée de 52 ans en 8 jours. Elle est décédée le vendredi. Je pensais beaucoup à mes frères de cette assemblée. Je me disais le dimanche matin, ça doit être difficile de chanter pour eux. Et un frère de la localité m'a dit, on a chanté quand même. On chante pas le dimanche matin parce que ça va bien. On chante parce que nos circonstances sont favorables. On chante parce que Dieu nous aime, parce que Jésus nous aime, parce qu'il s'est sacrifié à la croix, parce qu'il est glorieusement ressuscité, que nous avons tout notre salut est en lui, et parce qu'il est vivant. C'est ça qui nous fait chanter. C'est pas les circonstances. Des fois, elles sont très défavorables. Et ce sont des moments extraordinaires, le culte. Nous pouvons même, dans une mesure, oublier nos épreuves et nous réjouir en Dieu et dans son salut. Si on lit pour un seul verset au psaume 35, il est dit au verset 9, « Et mon âme s'égaillera en l'Éternel et je me réjouirai en son salut. » Et on pourrait citer aussi dans Habacuc, ça va très mal dans Habacuc. Eh bien, Habacuc dit, il n'y a pas de bœuf dans les étables, mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Quand ça va très mal, il faut au contraire se réjouir dans le Seigneur et en Dieu, dans le salut de Dieu. Je ne fais qu'appuyer ce que tu as dit dans le numéro 1. J'appuie aussi ce que tu as dit à propos de Jésus ressuscité. Ça, c'est une grande joie. Nous citons souvent ce verset de Jean 20, quand il est dit que les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Et l'évangile de Luc se termine par cette évocation d'une grande joie, comme elle avait commencé d'ailleurs. Le Seigneur Jésus emmène ses disciples à Béthanie, il va les quitter, et après 3 ans et demi, ils auraient dû être dans la tristesse. Quand un ami s'en va, on est triste, on a un coup de blues, comme on dit. Il est dit qu'ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi une grande joie alors que le Seigneur venait de les quitter? Eh bien, moi, je crois que c'est parce qu'ils avaient cette réalité chevillée à l'âme que Jésus était vivant. Et la preuve, c'est que dans le livre des Actes, si on poursuit, ils rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec une grande puissance. Et pratiquement dans les 7 discours de l'apôtre Pierre, tout le temps, il redit: vous l'avez fait périr, Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est une réalité qui n'a pas quitté les disciples. Et c'est une réalité qui ne doit jamais nous quitter. Ça va peut-être mal dans notre vie, mais nous, Jésus est vivant. Eh bien, peut-être que, au lieu que ce soit un frère qui parle tout seul, nous allons chanter ensemble cette joie de Jésus ressuscité. Je vous propose qu'on chante la deuxième strophe du 240.
Il y a un point sur lequel j'aimerais que nous revenions un peu. Et qui est un des grands sujets de l'épître aux Philippiens, c'est cet impératif. Réjouissez-vous. Le problème que nous avons, c'est que nous subissons. Nous subissons les circonstances. Et le privilège du chrétien, c'est que Dieu, c'est que le Seigneur lui donne les moyens de ne pas subir ces circonstances. Et des circonstances difficiles peuvent être aussi un sujet de joie. Il y a au moins 4 exemples dans l'épître aux Philippiens, outre celui que Jean-Luc a donné tout à l'heure. Dans le chapitre 1er, on sait bien que Paul est en prison, et certains disaient son service est terminé, il n'est plus utile. Et il entend dire que l'évangile est prêché par esprit de parti. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 18 ? Toutefois, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé, et en cela je me réjouis et aussi je me réjouirai. Il ne subit pas. Il trouve dans le plan de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans l'ordre du Seigneur, dans ce que le Seigneur lui avait dit, dans ce qu'il avait entendu, il trouve la raison pour laquelle il doit se réjouir, alors que les circonstances étaient opposées. Ensuite, il parle de sa propre mort. Il ne sait pas s'il va mourir ou rester. Mais quel est son choix ? Eh bien, verset 25, « Ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi. » Il a un but. Il sait que le Seigneur lui a confié un ministère extraordinaire et qu'il a cette conviction que ce n'est pas fini. Et donc il sait qu'il va rester. Il ne sait pas comment est-ce qu'il se sortira de cette prison. Il fait confiance au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a un but. L'avancement et la joie de la foi de ceux auxquels il s'attend. Dresserait. Dans le chapitre 2, ce que nous avons lu tout à l'heure, il y a des divergences de pensée entre chrétiens. C'est quelque chose qui pourrait être affligeant, attristant bien sûr, mais quel est le moyen par lequel il va se sortir de cette pensée attristante ? Qu'il y ait en vous cette pensée, laquelle était dans le Christ Jésus. Et quelle est cette pensée qu'il développe donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 11? C'est que le Seigneur est venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Non pas pour subir, mais pour faire la volonté de Dieu. Et puis, dans le paragraphe qui suit, donc du verset 12 à 18, nous trouvons cette expression, verset 17, « Même si je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. » Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Paul était en prison. Et d'une certaine façon, on pouvait penser, et lui aussi pouvait penser que c'était difficile pour encourager les siens. Nous savons que c'est là que la plupart des épîtres ont été écrites. Première réponse. Il encourage donc les Philippiens à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Mais il aimerait être auprès d'eux. Il aimerait aller vers eux. Alors, il tourne cette circonstance difficile, eh bien cette souffrance que je traverse actuellement, c'est un sacrifice, mais c'est pour le service de votre foi. C'est pour que le Seigneur se serve de cela, pour que vous soyez encouragés et fortifiés. On voit donc dans ces circonstances-là comment l'apôtre trouve dans le Seigneur, dans ce qu'il sait, dans ce qu'il a appris, dans la conviction que le Saint-Esprit lui donne de tourner des pensées attristantes, des circonstances difficiles en de véritables sujets de joie.
Oui, j'aimerais continuer sur cet épître aux Philippiens, là, parce que vraiment, on nous a donné un ordre. Hein, réjouissez-vous, c'est, si j'ai bien compris, pour beaucoup, c'est un ordre. Moi, je verrais ça plutôt comme un conseil gentil et fortement impérativé, mais voilà. Dans le Seigneur, alors, c'est donc dans le Seigneur qui peut éventuellement poser un problème, parce que dans le Seigneur, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc dans les valeurs que le Seigneur... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça va comme ça ? Bon. Donc dans ces valeurs que le Seigneur veut nous donner, nous a données. Dans cette épître de Philippiens, on a quelque chose qui est un, je dirais, un empêcheur de joie. C'est l'inquiétude. Juste après, il est dit ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas, c'est un ordre. Je ne sais pas si c'est un ordre, mais ne vous inquiétez de rien, parce que l'inquiétude nous enlève la joie. Et après, donc, il nous donne une solution. En toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, avec des prières, des supplications. Alors, on a l'impression que c'est une... Bon, il n'y a qu'à faire ça, puis tout va aller bien. Mais, d'abord, première question, est-ce qu'on expose vraiment tout à Dieu? Parce qu'on en parlait de cette communion, mais est-ce qu'on expose vraiment tout à Dieu? C'est-à-dire tout, pas mes besoins, pas les circonstances d'un tel ou d'une telle, pas mes difficultés dans le travail seulement. Oui, ça oui. Mais mes problèmes cachés. Les problèmes avec ceci ou cela. Les addictions. Peut-être un péché. Est-ce qu'on expose tout à Dieu? Et puis après, avec des actions de grâce. Alors excusez-moi, mais quand on est au fond du trou, les actions de grâce, c'est dur à trouver. Alors je reviens à ce qu'on a dit. Il y en a au moins une qu'on peut trouver. C'est merci du salut que tu m'as donné. Et ça, on peut toujours le dire. Merci de ce don du Seigneur Jésus. Et vous avez vu la conséquence, en fin de compte, là, dans ce passage, c'est « Et la paix de Dieu, et voilà, il n'y a plus d'inquiétude. La paix, c'est le contraire de l'inquiétude. Laquelle surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que dans toute logique, vous êtes dans l'inquiétude puisqu'il va se passer quelque chose de terrible. Vous êtes inquiet pour vos enfants, vous êtes inquiet pour votre travail. Dans toute logique, c'est inquiétant. Mais là, ça dépasse toute logique, toute intelligence, toute façon de raisonner. Il va garder faire comment? Il va garder vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Vos cœurs. Dans Matthieu, le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, la question est de se poser maintenant. Est-ce que je suis pas inquiet parce que mon trésor est pas là où il faudrait? Où est mon trésor? Et ça peut des fois remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de façons de voir sa propre vie, comment on a vécu sa propre vie, comment les valeurs qu'on a données à sa propre vie pendant tant ou tant d'années. Pour certains, il y en a 12, qui ont 12 ans, ça va encore, ils n'ont pas encore donné de valeur, ils vont le faire. C'est le moment de le faire d'ailleurs. Puis d'autres sont beaucoup plus âgés, ils ont déjà donné des valeurs. Donc là, gardera notre cœur et nos pensées. Mais pas comme ça, nous garder, mais dans le Christ Jésus, nous ramener à ces valeurs vraies dont on parle tout à l'heure, ces vraies valeurs, ces valeurs du Seigneur Jésus. Alors bien sûr, voilà un schéma que tout le monde peut suivre, mais que l'apôtre nous encourage à suivre. Et puis après, il nous parle des pensées. Alors je voudrais insister un petit peu sur ces pensées. Au reste, frère, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus, quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. On a parlé tout à l'heure des gens qui étaient des tristes cires. C'est un peu ça. Ils sont toujours tristes. Puis des gens qui sont très joyeux. Alors simplement là, une parenthèse. C'est pas le caractère ne sont pas forcément des choses qu'on n'est pas forcément avec. Naître du verbe naître. Avec le caractère triste. Ou avec un caractère joyeux. Il faut savoir que... Je fais une parenthèse. Quand on fait une action, un acte. On l'a fait une fois. Quand on répète cet acte, on le répète, bon. Et si on le répète souvent, ça devient une habitude. Et si cette habitude persévère et vous continuez dans cette habitude, eh bien, ça devient un caractère. Alors, je veux vous dire simplement que énormément de nos caractères sont purement et simplement acquis. Soit parce que nous avons voulu, ou pas voulu, mais inconsciemment nous l'avons fait, soit parce qu'on l'a subi par notre éducation. Excusez-moi, je ferme ma parenthèse et je reviens aux pensées. Excusez-moi d'être à tiroir comme ça. Donc la pensée. Alors le siège des pensées, je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur les pensées. Tout part des pensées. Tout part de là. Nous pensons 24 heures sur 24 à des vitesses vertigineuses. Et tout va partir de là. Les émotions dont on a parlé tout à l'heure vont venir des pensées. De la façon dont je pense, je vais avoir des émotions. Et mes émotions vont me faire des réactions physiques. Alors des fois c'est... Peut-être je suis triste, je suis très joyeux, mais des fois c'est des réactions physiques de marche en marche. Je me retire, j'ai peur, etc. Ça peut aller très loin, de défense. Donc tout vient des pensées. Donc, l'apôtre Paul nous donne encore une fois un schéma pour tout le monde. Il ne dit pas lutter contre les mauvaises pensées. Et ça, j'insiste là-dessus. Ne luttez pas. Non, occupez vos pensées. Puisque de toute façon, vous pensez 24 heures sur 24, alors mettez-y des bonnes choses. Et la liste, là, elle est belle. Et le résultat, c'est quoi? C'est pas que le Dieu nous gardera nos pensées et nos cœurs dans le Christ Jésus, mais là, il sera avec nous. Et là, on a la force du Dieu, ce Dieu de paix.
Donc, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvé tourné à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, les versets 2 à 4. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Dans Hébreux, au chapitre 12, le verset 2, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Et donc aussi le verset 11, « Or aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Dans Matthieu 5, le verset 12, Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous.
Donc voilà, nous sommes ensemble encore pour une heure et quart environ. On souhaite que l'étude se termine à 5h moins le quart pour que si on a un moment de chant et de prière, on puisse terminer cette journée à 17h. Dans cette dernière partie, nous aimerions nous arrêter un petit peu sur les textes qui ont été lus au début de l'après-midi. Toutes ont une expression commune. Il est parlé d'une joie accomplie ou une joie complète. C'est-à-dire complet, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça suffit. Il y en a assez. Ça comble. Et ce sera sans doute intéressant de regarder dans quel contexte ces différents textes nous ont été donnés. Pour bien sûr en tirer du bien pour chacun de nous et que nous puissions nous emparer effectivement de ce qui est écrit. Si Michael a lu ces quelques versets en commençant cette dernière partie concernant des circonstances difficiles, douloureuses, et quand même avec une possibilité de joie. Eh bien, ce sera aussi important peut-être pour connaître comment découvrir, comment vivre quelque chose de la joie dans des circonstances qui sont très difficiles. Et peut-être, je pose tout de suite la question, est-ce que c'est possible d'avoir les deux en même temps? Ou alors c'est l'une après l'autre? Voilà une question qui se pose. Et puis entre les deux, peut-être réfléchir, on avait mis dans notre programme, je ne sais pas si c'était le programme que tout le monde a reçu, mais il y avait une question, y a-t-il des voleurs de joie? Alors bien sûr, ça pourrait être un sujet pour peut-être une journée, mais juste réfléchir, si aucune circonstance particulière nous empêche de nous réjouir, pourquoi nous ne nous réjouissons pas? On a déjà un petit peu abordé la question tout à l'heure de ce que nous pouvons vivre comme habitude qui deviendrait peut-être notre caractère, peut-être des choses comme ça, mais voilà. Y a-t-il des voleurs de joie et où sont-ils? Alors, on a dit tout à l'heure quelque chose qui me semble important pour nous chrétiens. La source de la joie est en Dieu, mais on ne peut en profiter que si on lui fait complètement confiance. Et pour juste introduire et puis passer à la suite, je voulais juste une expression dans le psaume 73 de d'Azaph. Alors, vous savez, Azaph, il était vraiment en grand débat parce que des gens qui se moquaient de Dieu, tout allait bien, puis lui, il était dans la galère. Alors, finalement, est-ce juste ou injuste? Et là, ça lui a posé un gros problème. Et finalement, il a trouvé le secret. Mais ce que je voudrais lire, c'est que au verset 21, il disait « Quand mon cœur s'est grissé », c'est donc dans le psaume 73, « Quand mon cœur s'est grissé et que je me tourmentais dans mes reins, j'étais alors stupide, je n'avais pas de connaissance, j'étais avec toi comme une brute », il s'adresse à Dieu. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Me voilà en sécurité. Tu me conduiras par ton conseil. Il écoute. Et après la gloire, tu me recevras une espérance. Qui ai-je dans les cieux? Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Finalement, ceux qui ont l'air de bien fonctionner sans s'occuper de Dieu, ça continue comme ça. Mais c'est sa manière de voir les circonstances, de vivre dans les circonstances qui a changé. Voilà. Et je voudrais juste terminer avec le verset 28. « Mais pour moi, m'approcher de Dieu
et mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tout tes faits. » Voilà quelqu'un qui découvre qui est Dieu. Et il va se confier en lui. Et finalement, sa perception de ce qu'il est en train de vivre a entièrement changé. Puis il y a beaucoup d'autres psaumes comme ça. Alors, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, veut nous dire qu'il veut partager quelque chose qui est très très fort à l'intérieur de lui, qu'il appelle « ma joie ». Et dans ce paragraphe qui parle de ce cep et des sarments, de ce lien si fort entre voilà Christ et nous. Alors, dans cet évangile de Jean, je voudrais juste relire ce texte, chapitre 15. Et il dit « Comme le Père, verset 9, m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Et c'est un peu ce que nous lisons au chapitre 17 aussi, au verset 13. « Maintenant je viens à toi, Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie en eux-mêmes. » Et c'était les paroles, là, c'est « Père Saint, garde-les. » Voilà.
Le verset 28 du psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien », ça peut aussi se traduire « Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bonheur ». Et c'est dans cette approche, cette compagnie, cette recherche de la compagnie de Dieu qui est la source de la joie, la source du bonheur, la source de la paix.
Dans le premier passage qui a été lu, dans la première épître de Pierre, il est instructif de voir que le début du passage ouvre sur une espérance, qu'il peut y avoir des moments difficiles, des nécessités même, afflictions, si cela est nécessaire, afflictions, tentations, et puis ensuite, ça ouvre encore sur une espérance, sur une réalité éternelle qui est devant nous. Ça, c'est quelque chose d'important pour traverser des moments. Traverser des moments difficiles et trouver la joie. Il y a toujours cette pensée, vous avez remarqué qu'elle était ce matin et qu'on la retrouve cet après-midi, hein, qu'on l'a retrouvée déjà, qu'on la retrouve encore, de quelque chose qui est là dans la réalité divine, avec une réalité merveilleuse qui est là toujours et qui nous occupe, qui nous remplit, qui nous fait du bien, qui nous réjouit déjà à l'avance. Mais voilà, on est dans les circonstances. Et alors, est-ce qu'il faut une déconnexion ou est-ce qu'il faut garder le lien? C'est clair, il faut garder le lien. Donc je regarde aux réalités divines. Mais ce que je vis pour entrer dans la joie de Dieu peut nécessiter un certain nombre d'expériences pour apprendre et pour comprendre. Et si je maintiens dans les moments difficiles, justement, je vais citer un passage du livre des Proverbes, « Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. » Un moment difficile, quelque chose qui vous étreint, quelque chose de douloureux, on s'approche du Seigneur, on dit « Seigneur, avec toi ». Il y a la joie du passé, le salut, l'appartenance, quelque chose qui reste là, solide. Et puis, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais c'est comme ça chez moi. Hein ? tout de suite la réalité éternelle. Je me dis, tu y es, tu vas y toucher, il va venir peut-être maintenant, tu vas entrer dans cette réalité éternelle. Et puis ensuite, quelques expériences qui ont pu être traversées nous ont montré que dans la formation avec Dieu, dans les moments difficiles, il y a un apprentissage particulier, exceptionnel. Job a connu ces choses-là d'une manière exceptionnelle. C'était un homme remarquable. Le début du livre le présente comme un homme remarquable. Il s'enfonce dans des choses difficiles pour un labourage intérieur. C'est dur, vraiment triste. Et puis tout le monde s'abat sur lui, son épouse même. Tout lui tombe dessus. Les choses arrivent à toute allure au départ. Et puis son épouse l'invite justement à prendre sa distance de Dieu, à rejeter ces choses-là. Et à la fin, c'est merveilleux. Alors on est dans un moment difficile. Il y a une nécessité que nous ne saisissons pas, mais qui est une nécessité divine, parce que Dieu veut le meilleur et la plus grande joie. Alors on entre dans quelque chose, je répète, moi je ressens ça comme ça, véritablement, dans ma vie avec le Seigneur, et puis une question naît tout de suite, mais pourquoi ? Puis je lui dis, tu sais ce que tu fais ? Puis, je cherche véritablement à asseoir la confiance, et je me dis, fais quelque chose que je ne comprends pas, mais tout à l'heure je comprendrai comme à Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Donc vous voyez, cet encadrement de certitude divine lié à une promesse et un résultat qui va être atteint, et entre les deux, des nécessités qui sont liées à la formation pour justement, partant d'une réalité divine qui embrasse le futur, entrer dans le futur avec une autre mesure, résultat d'un travail divin. Pour moi, il y a une joie là, même dans le moment difficile, quand on est enfoncé, quand toutes vos pensées vous traversent, quand la nuit, malgré tout, vous y pensez, vous ne pouvez pas vous en libérer. Il y a pourtant quelque chose qui se passe. L'Éternel ne sommeille pas. Il est celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. Celui qui garde les siens est là, toujours présent. On est là, avec lui, on y pense. Mais il est en train de préparer quelque chose de meilleur. Il y a une joie présente même dans la douleur.
Les trois passages de l'évangile de Jean, où cette expression « joie accomplie », c'est vrai, attire notre attention. Ils sont importants. Dans le chapitre 15, on voit que le Seigneur Jésus se présente à ses disciples comme le vrai cep. Comme nous avons fait remarquer ce matin, Israël était la vigne de Dieu, mais n'a pas donné de bons raisins, n'a pas donné de la joie à Dieu. Alors le Seigneur se présente ici comme le vrai cep. C'est lui qui va donner de la joie à Dieu, et nous en avons parlé ce matin. Et ceux qui sont attachés à lui, le vrai cep, vont donner aussi du vin ou de la joie à Dieu, et de la joie au Seigneur. Alors, pour que cette joie soit accomplie, là on voit qu'il y a une condition, il y a un « si ». « Si vous gardez mes commandements », donc c'est l'obéissance. Notre joie dans le Seigneur, notre joie en Jésus, est quand même conditionnelle ici de notre obéissance. Et notre obéissance dépend de notre amour, parce qu'il dira ailleurs, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est parce que nous l'aimons que nous obéissons. Et ici, la joie est conditionnelle à l'obéissance du croyant. L'obéissance de l'amour, non pas une obéissance légale, il faut que je fasse ceci, cela. C'est l'obéissance de l'amour. Nous montrons notre amour pour le Seigneur en obéissant à sa parole, en faisant attention. Nous ne savons pas tout de la parole, non, mais dans ce que nous connaissons, nous reconnaissons l'autorité de la parole du Seigneur dans ce qu'il nous dit. D'ailleurs, ce verbe, ce mot « commandement » est fort. Ça montre l'autorité de quelqu'un qui dit quelque chose et auquel on doit être soumis, mais ici par amour. Et le deuxième passage, en Jean 16, il y a une condition, c'est que cette joie, elle va être accomplie dans la dépendance, si vous demandez. Donc ça nous encourage à la prière. Nous sommes faibles, fragiles par rapport aux circonstances, par rapport à beaucoup de choses, mais cette joie, elle est conditionnelle ici à la dépendance que nous pourrons avoir vis-à-vis du Seigneur et de notre Dieu. C'est important la prière dans la vie du chrétien pour maintenir sa joie en Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et le troisième passage en chapitre 17, cette merveilleuse prière sacerdotale, la joie accomplie dépend, pas de nous dans un sens, mais dépend de l'activité du Seigneur Jésus comme intercesseur, comme souverain sacrificateur pour nous garder dans un monde très dangereux. Père, tu sais, ils sont dans un monde terrible. Garde-les afin que leur joie soit accomplie. Si tu ne les gardais pas, s'ils étaient livrés à eux-mêmes, impossible d'avoir la joie dans un monde aussi terrible où le péché risquerait de nous faire trébucher à chaque pas. Peut-être que quelqu'un dira, oui, l'intercession du Seigneur, il en est parlé en hébreu, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 7, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. En Romains 8, il intercède pour nous selon Dieu, mais je vois pas, c'est assez abstrait. L'intercession du Seigneur. Eh bien, nous ne savons pas ce que nous devons aux prières du Seigneur Jésus. Nous pouvons être presque sûrs que s'il n'avait pas prié, nous ne serions pas ici dans cette salle à écouter la parole de Dieu. C'est important les prières du Seigneur. Quand on prie pour quelqu'un, et surtout quand on prie assidûment, ça veut dire qu'on lui porte un intérêt très fort. Il nous porte un intérêt très fort, il nous aime. Et sans cette intercession du Seigneur, ici en Jean 17, et ça, c'est la prière sacerdotale, c'est la prière type, on peut dire, de ce que le Seigneur fait à l'heure actuelle. 1er juin 2011, il prie pour nous, ici. Pour 2 juin. Et pour que notre joie soit maintenue dans un monde si dangereux, parce que nous allons voir que nous avons un grand voleur de joie, c'est le péché, notre grand voleur de joie. C'est pas comme nous pourrions le penser les épreuves. Non, les épreuves nous amènent près de Dieu, nous font pleurer, mais nous sommes près de Dieu, nous sommes heureux en Dieu quand nous pleurons. Et le péché nous enlève toute joie. On va peut-être voir qu'on peut la retrouver, graduellement. Mais là, c'est la joie accomplie par l'intercession du Seigneur Jésus. C'est important, son intercession.